Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Et nous voici pour la suite du roman de Honoré de Balzac, Ferragus, chef des dévorants. 10 minutes plus tard, Jules se trouva dans le bureau de son ami l'archiviste. Jacquet lui avança une chaise, posa méthodiquement sur sa table son garde-vue en taffetas vert, se frotta les mains, prit sa tabatière, se leva en faisant craquer ses omoplates, se rehaussa le thorax et dit « Par quel hasard ici, monsieur Desmarets, mais que me veux-tu ?» Jacquet, j'ai besoin de toi pour deviner un secret de vie et de mort.
Cela ne concerne pas la politique.
Ce n'est pas à toi que je le demanderais si je voulais savoir, dit Jules. Non, c'est une affaire de ménage sur laquelle je réclame de toi le silence le plus profond.
Claude Joseph Jacquet, muet par état.
« Tu ne me connais donc pas, » dit-il en riant. « C'est ma partie, la discrétion. » Jules lui montra la lettre en lui disant « Il faut me lire ce billet adressé à ma femme.
»« Diable, diable, mauvaise affaire, » dit Jacquet en examinant la lettre de la même manière qu'un usurier examine un effet négociable.
« Ah !» C'est une lettre à grille. Attends. Il laissa Jules seul dans le cabinet et revint assez promptement.
Niaiserie, mon ami, c'est écrit avec une vieille grille dont se servait l'ambassadeur de Portugal sous Monsieur de Choiseul lors du renvoi des Jésuites. Tiens, voici.
Jacquet superposa un papier à jour, régulièrement découpé comme une de ces dentelles que les confiseurs mettent sur leurs dragées. Et Jules put alors lire facilement les phrases qui restèrent à découvert. N'aie plus d'inquiétude, ma chère Clémence. Notre bonheur ne sera plus troublé par personne. Et ton mari déposera ses soupçons. Je ne puis t'aller voir. Quelque malade que tu sois, il faut avoir le courage de venir. Cherche, trouve des forces. Tu en puiseras dans ton amour. Mon affection pour toi m'a contraint de subir la plus cruelle des opérations, et il m'est impossible de bouger de mon lit.
Tu me comprends ?
Mais je pensais à toi, je n'ai pas trop souffert. Pour dérouter toutes les perquisitions de Maulincourt qui ne nous persécutera plus longtemps, j'ai quitté le toit protecteur de l'ambassade et suis à l'abri de toute recherche, rue des Enfants Rouges, numéro 12, chez une vieille femme nommée Madame Étienne Gruget, la mère de cette Ida, qui va payer cher sa sotte incartade. Viens-y demain, à 9h du matin. Je suis dans une chambre à laquelle on ne parvient que par un escalier intérieur. Demande Monsieur Camuset. À demain, je te baise le front, ma chérie.
Jacquet regarda Jules avec une sorte de terreur honnête qui comportait une compassion vraie et dit son mot favori, « Diable, diable !» sur deux tons différents.
« Cela te semble clair, n'est-ce pas ?» dit Jules. « Eh bien, il y a dans le fond de mon cœur une voix qui plaide pour ma femme et qui se fait entendre plus haut que toutes les douleurs de la jalousie. Je subirai jusqu'à demain le plus horrible des supplices, mais enfin demain, de 9 à 10, je saurai tout et je serai malheureux ou heureux pour la vie. Pense à moi, Jacquet. »
Je serai chez toi demain à 11h. Nous irons là ensemble et je t'attendrai, si tu le veux, dans la rue. Tu peux courir des dangers. Il faut près de toi quelqu'un de dévoué qui te comprenne à demi-mot et que tu puisses employer sûrement. Compte sur moi.
Même pour m'aider à tuer quelqu'un ?
Oh, diable, diable ! Dit Jacquet vivement, en répétant pour ainsi dire la même note musicale. J'ai 2 enfants et 1 femme.
Jules serra la main de Claude Jacquet et sortit.
Mais il revint précipitamment. « J'oublie la lettre, » dit-il.
« Puis ce n'est pas tout, il faut la recacheter. »«
Diable, diable ! Tu l'as ouverte sans en prendre l'empreinte, mais le cachet est heureusement assez bien fendu. Va, laisse-la moi, je te la rapporterai. Secundum scripturam. »
« À quelle heure ?»«
À 5h30. »
Si je n'étais pas encore rentré, remets-la tout bonnement au concierge en lui disant de la monter à madame.
Me veux-tu demain ?
Non.
Adieu.
Jules arriva promptement à la place de la rotonde du temple. Il y laissa son cabriolet et vint à pied rue des Enfants Rouges, où il examina la maison de madame Étienne Gruget. Là devait s'éclaircir le mystère d'où dépendait le sort de tant de personnes. Là était Ferragus, et à Ferragus aboutissaient tous les fils de cette intrigue. La réunion de madame Jules, de son mari, de cet homme, n'était-elle pas le nœud gordien de ce drame déjà sanglant, et auquel ne devait pas manquer le glaive qui dénoue les liens les plus fortement serrés ? Cette maison était une de celles qui appartiennent au genre de Cabaiotti. Ce nom très significatif est donné par le peuple de Paris à ces maisons composées, pour ainsi dire, de pièces de rapport. C'est presque toujours ou des habitations primitivement séparées, mais réunies par les fantaisies des différents propriétaires qui les ont successivement agrandies, ou des maisons commencées, laissées, reprises, achevées, maisons malheureuses, qui ont passé comme certains peuples sous plusieurs dynasties de maîtres capricieux. Ni les étages ni les fenêtres ne sont ensemble. Pour emprunter à la peinture un de ses termes les plus pittoresques, tout y jure, même les ornements extérieurs. Cette maison est à l'architecture parisienne ce que le Capharnaüm est à l'appartement, un vrai fouillis où l'on a jeté pêle-mêle les choses les plus discordantes.
« Madame Étienne, » demanda Jules à la portière.
Cette portière était logée sous la grande porte, dans une de ces espèces de cages à poulets, petite maison de bois montée sur des roulettes et assez semblable à ces cabinets que la police a construits sur toutes les places de fiacre.
« Hein ?»
fit la portière en quittant le bas qu'elle tricotait. À Paris, les différents sujets qui concourent à la physionomie d'une portion quelconque de cette monstrueuse cité s'harmonisait admirablement avec le caractère de l'ensemble. Ainsi, portier, concierge ou suisse, quel que soit le nom donné à ce muscle essentiel du monstre parisien, il est toujours conforme au quartier dont il fait partie et souvent il le résume. Brodé sur toutes les coutures, oisif, le concierge joue sur les rentes dans le faubourg Saint-Germain. Le portier a ses aises dans la chaussée d'Antin. Il lit les journaux dans le quartier de la Bourse. Il a un état dans le faubourg Montmartre. La portière est une ancienne prostituée dans le quartier de la prostitution. Au Marais, elle a des mœurs, elle est revêche, elle a des lubies. En voyant M. Jules, cette portière prit un couteau pour remuer la motte presque éteinte de sa chaufferette. Puis, elle lui dit « Vous demandez Madame Étienne.
Est-ce Madame Étienne Gruget ?»«
Oui, » dit Jules, en prenant un air presque fâché.
« Qui travaille en passementerie ?»«
Oui. » »«
Eh bien, monsieur, » dit-elle en sortant de sa cage, mettant la main sur le bras de Monsieur Jules et le conduisant au bout d'un long boyau voûté comme une cave, « vous montrez le second escalier au fond de la cour. Voyez-vous les fenêtres où il y a des giroflées ? C'est là que reste Madame Étienne. Merci, madame. Croyez-vous qu'elle soit seule ?
Oh, mais pourquoi donc qu'elle serait pas seule, cette femme ? Elle est veuve ?
Jules monta lestement un escalier fort obscur dont les marches avaient des callosités formées par la boue durcie qui laissait les allants et les venants. Au second étage, il vit trois portes, mais point de géroflées. Heureusement, sur l'une de ces portes, la plus huileuse et la plus brune des trois, il lut ces mots écrits à la craie. « Ida viendra ce soir à 9 heures. »
C'est là, se dit Jules. Il tira un vieux cordon de sonnette tout noir à pied de biche, entendit le bruit étouffé d'une solette fêlée et les jappements d'un petit chien asthmatique. La manière dont les sons retentissaient dans l'intérieur lui annonça un appartement encombré de choses qui n'y laissaient pas subsister le moindre écho. Très caractéristique des logements occupés par des ouvriers, par de petits ménages auxquels la place et l'air manquent.
Jules cherchait machinalement des giroflées et finit par les trouver sur l'appui extérieur d'une croisée à coulisses entre deux plombs empestés. Là, des fleurs. Là, un jardin long de 2 pieds, large de 6 pouces. Là, un grain de blé. Là, toute la vie résumée. Mais là aussi, toutes les misères de la vie. En face de ces fleurs chétives et des superbes tuyaux de blé, un rayon de lumière tombant là du ciel comme par grâce faisait ressortir la poussière, la graisse, et je ne sais quelle couleur particulière au taudis parisien, 1000 saletés qui encadraient, vieillissaient et tachaient les murs humides, les balustres vermoulus de l'escalier, les châssis disjoints des fenêtres et les portes primitivement rouges. Bientôt, une toux de vieille et le pas lourd d'une femme qui traînait péniblement des chaussons de lisière annoncèrent la mère d'Ida Gruget. Cette vieille ouvrit la porte, sortit sur le palier, leva la tête et dit « Ah, c'est Monsieur Bocquillon, mais non, par exemple, comme vous ressemblez à Monsieur Bocquillon. Vous êtes son frère, peut-être. Qu'y a-t-il pour votre service ? Entrez donc, monsieur. »
Jules suivit cette femme dans une première pièce, où il vit, mais en masse, des cages, des ustensiles de ménage, des fourneaux, des meubles, de petits plats de terre pleins de pâtés ou d'eau pour le chien et les chats, une horloge de bois, des couvertures, des gravures d'Eisen, de vieux fers entassés, mêlés, confondus, de manière à produire un tableau véritablement grotesque. Le vrai Capharnaüm parisien.
Jules, dominé par une pensée de prudence, n'écouta pas la veuve Gruget qui lui disait « Entrez donc ici, monsieur, vous vous chaufferez ?»
Jamais encore on avait vu une telle gaieté, une telle cohue, il y a bal dans ma rue. Et dans le petit bistrot où la joie sous la peau, des musiciens perchés sur un tréteau. Nous tous les amoureux qui tournent de barde, le rire aux lèvres et les yeux dans les yeux. Ce soir il y a bal dans ma rue. Tout le monde se sent un peu ému, peut-être bien qu'on a trop vu, il y a mal dans ma rue. Il était si beau que lorsqu'il me sortait, aussitôt tout le monde sur lui se retournait. J'étais si fière de lui, j'ai pas pu résister à ma meilleure amie. Un jour je l'ai présenté. Il s'en plut immédiatement, ils se sont mariés ce matin, ils formaient un couplet battant, et moi j'étais témoin, et voilà pourquoi. Ce soir, il y a
balle dans ma rue. Jamais encore on avait vu une telle gaieté, une telle cohue. Il y a balle dans ma rue. Et dans le petit vitre où la voix sous la peau, les musiciens perchés sur un bréteau. Le rire aux lèvres et les yeux dans les yeux. Ce soir il y a balle dans ma rue. Jamais encore on avait vu une telle gaieté, une telle folie. Il y a balle dans ma rue.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Ferragus, chef des dévorants, Honoré de Balzac. Jules reprit. Il paraît que votre fille se conduit bien mal envers vous. Aimé par un homme aussi riche, aussi puissant que les Ferragus, il devrait lui être facile de vous rendre plus heureuse que vous ne semblez être. « Ah, mon cher monsieur, pas seulement un pauvre billet de spectacle pour l'ambigu ou la gaieté. C'est une indignité. Une fille pour qui j'ai vendu mes couverts d'argent, que je mange maintenant à mon âge dedans du métal allemand pour lui payer son apprentissage et lui donner un état où elle ferait de l'or, si elle voulait. Enfin, elle pourrait même bien me repasser ses vieilles robes de soie, moi qu'aime tant porter de la soie. Non, monsieur Eva, au cadran bleu, dîner à 50 francs par tête, roule en voiture comme une princesse et se moque de sa mère comme de Colin Tampon. Comment ? Elle ne fait rien pour vous ? Ah, rien, non, monsieur, je ne dis pas si elle ne faisait rien, ce serait par trop peu de choses. Elle me paye mon loyer, elle me donne du bois et 36 francs par mois.
Jules devina soudain la cause de la sage parcimonie dont se plaignait la mère, et il n'en fut que plus certain de l'acquiescement de la veuve au marché proposé. « Eh bien, madame, dit-il, acceptez-vous alors ce que je vous offre ?
Vous disiez donc, monsieur, 2000 francs de comptant et 600 francs de viager. Madame, j'ai changé d'avis, et je vous promets seulement 300 francs de rente viagère. »
L'affaire ainsi faite me paraît plus convenable à mes intérêts, mais je vous donnerai 5000 francs d'argent comptant. N'aimez-vous pas mieux cela ?
Oh, dame, oui, monsieur.
Mais voyons, comment allez-vous vous y prendre ? Reprit Jules.
Eh bien, monsieur, en donnant ce soir à monsieur Ferragus une petite infusion de tête de pavot, il dormira bien, le cher homme, et il en a bon besoin, rapport à ses souffrances, car il souffre que c'est une pitié. Mais aussi, demandez-moi ce que c'est que cette invention à un homme sain de se brûler le dos pour sauter un tic douloureux qui ne le tourmente que tous les 2 ans.
Pour en revenir à notre affaire, j'ai la clé de ma voisine dont le logement est au-dessus du mien, et qui a une pièce mûre mitoyen avec celle où couche monsieur Ferragus. Elle est là, à la campagne, pour 10 jours. Et donc, en faisant faire un trou, pendant la nuit, au mur de séparation, vous les entendrez et les verrez à votre aise. Je suis intime avec un serrurier, un bien aimable homme, qui raconte comme un ange et fera cela pour moi, ni vu, ni connu.
Voilà 100 francs pour lui. Soyez ce soir chez M. Desmarais, un notaire dont voici l'adresse. À 9h, l'acte sera prêt, mais... motus.
« Suffit, monsieur, comme vous dites, mobus. Au revoir, monsieur. »
Jules revint chez lui presque calmé par la certitude où il était de tout savoir le lendemain. En arrivant, il trouva chez son portier la lettre parfaitement bien recachetée.
« Comment te portes-tu » dit-il à sa femme, malgré l'espèce de froid qui les séparait.
Les habitudes de cœur sont difficiles à quitter.
« Assez bien, Jules, reprit-elle d'une voix coquette. Veux-tu dîner près de moi ?»«
Oui, répondit-il en apportant la lettre. Tiens, voici ce que Foucrot m'a remis pour toi. »
Clémence, qui était pâle, rougit extrêmement en apercevant la lettre, et cette rougeur subite causa la plus vive douleur à son mari. « Est-ce de la joie ? » dit-il en riant. « Est-ce un effet de l'attente ?»«
Oh, il y a bien des choses, » dit-elle en regardant le cachet.
« Je vous laisse, madame. »
Et il descendit dans son cabinet où il écrivit à son frère ses intentions relatives à la constitution de la rente viagère destinée à la veuve Gruget. Quand il revint, il trouva son dîner préparé sur une petite table près du lit de Clémence et Joséphine prête à servir.
« Si j'étais debout, avec quel plaisir je te servirais, » dit-elle quand Joséphine les eut laissés seuls.
« Oh, même à genoux, » reprit-elle en passant ses mains pâles dans la chevelure de Jules.
« Cher noble cœur, tu as été bien gracieux et bien bon pour moi tout à l'heure. Tu m'as fait le plus de bien par ta confiance que tous les médecins de la terre ne pourraient m'en faire par leur ordonnance.
Ta délicatesse de femme, car tu sais aimer comme une femme, toi. Eh bien, elle a répondu dans mon âme je ne sais quel baume qui m'a presque guéri. »
Il y a trêve, Jules, avance ta tête, que je la baise.
Jules ne put refuser au plaisir d'embrasser Clémence. Mais ce ne fut pas sans une sorte de remords au cœur. Il se trouvait petit devant cette femme qu'il était toujours tenté de croire innocente. Elle avait une sorte de joie triste. Une chaste espérance brillait sur son visage à travers l'expression de ses chagrins. Il semblait également malheureux d'être obligé de se tromper l'un et l'autre, et encore une caresse, ils allaient tout avouer, ne résistant pas à leur douleur.
« Demain soir, Clémence. »«
Non, monsieur. Demain à midi, vous saurez tout et vous vous agenouillerez devant votre femme. »
« Oh non, tu ne t'humilieras pas, non, tu es tout pardonné, non, tu n'as pas de tort, écoute.
Hier, tu m'as bien rudement brisé, mais ma vie n'aurait peut-être pas été complète sans cette angoisse. Ce sera une ombre qui fera valoir des jours célestes. »
« Tu m'ensorcelles, » s'écria Jules, « et tu me donnerais des remords. »
« Pauvre ami. » « La destinée est plus haute que nous. Et je ne suis pas complice de ma destinée. Je sortirai demain. »«
À quelle heure ?» demanda Jules.
« À 9h30. »«
Clémence, » répondit M. Desmarets, « prends bien des précautions. Consulte le docteur Desplein et le vieil Audry. »«
Je ne consulterai que mon cœur et mon courage. » »«
Je te laisse libre. » Et ne viendrai te voir qu'à midi.
Tu ne me tiendras pas un peu compagnie ce soir, je ne suis plus souffrante.
Après avoir terminé ses affaires, Jules revint près de sa femme, ramené par une attraction invincible. Sa passion était plus forte que toutes ses douleurs.
Le lendemain, vers 9h, Jules s'échappa de chez lui, courut à la rue des Enfants-Rouges, monta et sonna chez la veuve Gruget.
« Ah, vous êtes de parole exacte comme l'aurore. Rentrez donc, monsieur, lui dit la vieille, passementière en le reconnaissant.
« Merci, madame. Menez-moi. Bien, bien, mon cher monsieur, venez par ici. »
La veuve conduisit Jules dans une chambre située au-dessus de la sienne, et où elle lui montra triomphalement une ouverture grande comme une pièce de 40 sous pratiquée pendant la nuit à une place correspondant aux rosaces les plus hautes et les plus obscures du papier tendu dans la chambre de Ferragus.
Jules fut obligé pour se maintenir là et pour y bien voir de rester dans une position assez fatigante en se penchant sur un marchepied que la veuve Gruget avait eu soin d'apporter.
« Il est avec un monsieur, »
dit la vieille en se retirant.
Jules aperçut en effet un homme occupé à panser un cordon de plaie, produite par une certaine quantité de brûlure pratiquée sur les épaules de Ferragus, dont il reconnut la tête,
d'après la description que lui en avait faite M. de Maulincourt.
« Quand crois-tu que je serai guéri ?» demandait-il.
« Je ne sais, répondit l'inconnu, mais au dire des médecins, il faudra bien encore 7 ou 8 pansements. »«
Eh bien, ce soir, » dit Ferragus, en tendant la main à celui qui venait de poser la dernière bande de l'appareil.
« À ce soir !» répondit l'inconnu.
« Je voudrais te voir quitte de tes souffrances. »
Enfin, les papiers de M. Funcal nous seront remis demain et Henri Bourignard est bien mort, reprit Ferragus. Les deux fatales lettres qui nous ont coûté si cher n'existent plus. Je redeviendrai donc quelque chose de social, un homme parmi les hommes et je vaux bien le marin qu'ont mangé les poissons. Dieu sait si c'est pour moi que je me fais compte.
Pauvre Gratien, toi notre plus forte tête, notre frère chéri. Tu es le Benjamin de la bande, tu le sais.
Adieu. Surveillez bien mon Maulincourt.
Sois en paix sur ce point.
Hé, marquis ! Cria le vieux forçat.
Quoi ?
Ida est capable de tout après la scène d'hier au soir. Si elle s'est jetée à l'eau, je ne la repêcherai certes pas. Elle gardera bien mieux le secret de mon nom, le seul qu'elle possède.
Mais surveille-la, car après tout, c'est une bonne fille.
Bien.
L'inconnu se retira.
10 minutes après, M. Jules n'entendit pas, sans avoir un frisson de fièvre, le bruissement particulier aux robes de soie et reconnut presque le bruit des pas de sa femme.
« Eh bien, mon père, » dit Clémence. « Pauvre père, comment allez-vous? Quel courage !»«
Viens, mon enfant, » répondit Ferragus en lui tendant la main. Et Clémence lui présenta son front qu'il embrassa.
« Voyons, qu'as-tu, pauvre petite? Quel chagrin nouveau !»«
Des chagrins, mon père, mais c'est la mort de votre fille que vous aimez tant. »
Comme je vous l'écrivais hier, il faut absolument que dans votre tête si fertile en idées, vous trouviez le moyen de voir mon pauvre Jules aujourd'hui même, si vous saviez comme il a été bon pour moi, malgré des soupçons en apparence si légitimes. Mon père, mon amour, c'est ma vie. Voulez-vous me voir mourir?
Ah, j'ai déjà bien souffert, et je le sens, ma vie est en danger.
Te perdre, ma fille? Dit Ferragus, te perdre par la curiosité d'un misérable Parisien?
Je brûlerai Paris.
Ah, tu sais ce qu'est un amant, mais tu ne sais pas ce qu'est un père.
Mon père, vous m'effrayez quand vous me regardez ainsi. Ne mettez pas en balance 2 sentiments si différents. J'avais un époux avant de savoir que mon père était vivant.
Si ton mari a mis le premier des baisers sur ton front, répond Ferragus, moi, le premier, j'y ai mis des larmes.
Rassure-toi, Clémence, parle à cœur ouvert. Je t'aime assez pour être heureux de savoir que tu es heureuse, quoique ton père ne soit presque rien dans ton cœur, tandis que tu remplis le sien.
Mon Dieu, de semblables paroles me font trop de bien. Vous vous faites aimer davantage, et il me semble que c'est voler quelque chose à Jules. Mais, mon bon père, songez donc qu'il est au désespoir. Que lui dire dans 2 heures?
Enfant, ai-je donc attendu ta lettre pour te sauver du malheur qui te menace?
Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc les aventures de Ferragus, le chef des dévorants, que nous retrouverons et terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.